La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
1802, c'est une année charnière dans l'histoire Bonaparte devient premier consul à vie et signe le concordat du pape. Beethoven rédige le testament d'Heiligenstadt et il refuse de mettre fin à ses jours. On en a déjà parlé. Il jette même sur le papier les premières notes de sa troisième symphonie qu'il souhaite dédier à Bonaparte. Il caresse l'espoir de trouver un poste à Paris auprès du premier consul. Cette même année, 1802, elle est essentielle dans l'histoire de la médecine aussi, puisqu'elle voit apparaître l'internat des hôpitaux qui permet l'émergence de l'anatomie clinique ou anatomie pathologique. En ce début du 19e siècle, ce sont donc les bases de notre médecine qui naissent. Beethoven, c'est la série réalisée par Cécile Poss et Marion Guillemette.
La première présente Ludwig van Beethoven.
C'est des actes d'audace qu'il a eu dans ses compositions.
Cette souffrance n'est pas inutile.
Le vin, c'est la plus hygiénique des boissons.
Il y a des passages qui sont vraiment faits pour rire.
Des partitions totalement illisibles.
L'approfondissement infini de l'espace intérieur.
On entre presque dans le crâne d'un sourd.
Il y a eu un énorme orage.
. 1802 est une date charnière. C'est l'année au cours de laquelle Beethoven a rédigé ce qu'on a appelé le testament d'Heiligenstadt, qui est en fait une longue lettre que le compositeur adresse à ses deux frères, Karl et Johann. Il y parle de sa détresse, d'être atteint de surdité, alors qu'il est musicien. Il parle de la crainte que son entourage découvre son état, et il leur confie penser au suicide. Et puis finalement, le désir de vivre et de composer est plus grand. Grâce à l'art et à sa musique, il décide de vivre et d'aider ses semblables à surmonter leur douleur. Mais 1802 est une date importante non seulement car l'un des plus grands génies de la musique ne s'est pas supprimé, mais aussi en médecine. Dans ce fameux testament, Beethoven fait une demande à ses frères, une demande pas si anodine. Il souhaite qu'après son décès, on fasse une autopsie.
Vous, mes frères Karl et Johann, dès que je ne serai plus, si le professeur Schmidt vit encore, priez-le en mon nom de décrire ma maladie et joignez-y ces pages afin qu'après ma mort, au moins, les hommes m'accordent leur pardon.
La révolution de la médecine à la fin du XVIIIe siècle va survenir à la fin du XVIIIe siècle et curieusement, elle est assez dépendante d'une révolution politique.
Le médecin et historien de la médecine, Roger Daché.
Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les grands noms de la médecine sont situés pour l'essentiel dans le nord de l'Europe et en Grande-Bretagne, dans les Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Et à la fin du XVIIIe siècle, ça va changer géographiquement et la France va redevenir pour beaucoup de temps, pour pratiquement deux siècles, le grand pays qui fait avancer la médecine. Et curieusement, l'une des premières causes de ce changement, c'est la Révolution française. Alors bien sûr, la Révolution française, c'est un événement politique, mais ça va complètement bouleverser toute l'organisation de la société. Et parmi les innombrables changements qui vont intervenir au moment de la Révolution française, on va avoir la suppression de toutes les vieilles facultés de médecine qui étaient les conservatoires de l'immobilisme médical depuis le Moyen-Âge. Et on va recréer de nouvelles écoles de médecine avec un concept entièrement nouveau qui naît au moment de la Révolution française et qui progressivement va s'étendre dans toute l'Europe. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un nouveau modèle d'exercice de la médecine va naître en France et qu'en quelques années, notamment grâce à l'expansion de la Révolution française, mais aussi à l'expansion du Premier Empire, qui est quand même l'héritier de la Révolution française, va s'étendre à l'ensemble de l'Europe. On avait supprimé les facultés, on va rétablir des écoles de médecine, mais surtout, en 1802, on va créer à Paris, puis dans quelques grandes villes de France, l'internat des hôpitaux. C'est-à-dire qu'on va créer quelque chose qui n'existait pas avant. C'est ce qu'on va appeler des internes, des médecins qui sont attachés à temps plein à un hôpital, l'hôpital étant lui-même adossé à une école de médecine. Et donc, les étudiants en médecine, et c'est à ce moment-là que ça apparaît. Parce qu'avant, les étudiants en médecine, dans les vieilles facultés, ils faisaient de la philosophie, ils traduisaient du latin et du grec, mais ils ne voyaient jamais de patients. Encore au XVIIe siècle, on fait des consultations par correspondance, par courrier. Parce qu'un médecin ne va tout de même pas s'abaisser jusqu'à aller voir un patient. Donc, on modifie complètement ce concept. On crée des hôpitaux qui sont en lien avec une école de médecine. Et les internes qui animent ces hôpitaux sont de jeunes médecins qui sortent de l'école de médecine et qui bientôt vont être professeurs dans cette même école de médecine. Et donc, on a là un milieu intellectuel très jeune et une cohérence entre l'endroit où on enseigne la médecine et l'endroit où elle se pratique. Et ça va avoir des conséquences extraordinaires, en particulier parce que ça va permettre, il y a deux grands noms, bien sûr c'est une œuvre collective, mais comme pendant toute l'histoire de la médecine jusqu'au milieu du XXe siècle, l'histoire de la médecine c'est souvent l'histoire de quelques personnalités qui émergent. Plus tard, à partir du milieu du XXe siècle, la médecine va devenir l'affaire d'équipes de recherche, d'équipes médicales. Mais jusque-là, c'est quand même des personnalités qui émergent. Et il y a deux personnalités qui vont émerger, l'un dans les toutes dernières années du XVIIIe et au début du XIXe, puisqu'il meurt en 1802, c'est Bichat. Gustave Flaubert a écrit quelque part « La médecine moderne est née dans le tablier de Bichat ». Qui est un homme qui va être foudroyé par quelle maladie ? La tuberculose, bien entendu, et qui est un jeune interne, et qui va commencer ce que le deuxième, dont on va parler dans un instant, va poursuivre, mais lui, il aura un peu plus de temps pour le mener à bien. Il va poser les bases de ce qu'on va appeler la méthode anatomoclinique. C'est-à-dire qu'il commence à disséquer, à autopsier les patients qui sont morts, et à regarder quelles lésions ils présentent, quelles anomalies de leurs organes on constate, et on va rapprocher ces anomalies des organes, des signes cliniques qu'ils ont présentés pendant leur vie. Et la deuxième personne, le deuxième grand médecin qui va vivre un peu plus longtemps, c'est Laennec. Et Laennec, qui est à peu près de la même génération que Bichat, va être l'inventeur du stéthoscope, va être celui qui vraiment va donner ses lettres de noblesse à la méthode anatomoclinique. Laennec, qui tout de même ne vivra pas extrêmement vieux et qui va mourir de quoi ? Oui, bien sûr, de la tuberculose, qu'il avait d'ailleurs contribué à mieux décrire et sur laquelle il avait essayé de fonder une théorie pour expliquer la progression ou au contraire la guérison de la tuberculose. Donc voilà, il y a des événements politiques et des individus. Il faut comprendre le modèle antérieur de la médecine. Le modèle antérieur de la médecine, c'était que tout était uniquement fondé sur l'apparence clinique. Donc, par exemple, vous avez une maladie fébrile, vous avez de la fièvre. Eh bien, on considérait que c'était une maladie en soi. Alors que nous savons, aujourd'hui, que la fièvre, ce n'est pas une maladie. La fièvre, c'est un symptôme qui peut correspondre à la rougeole, à la grippe, à la typhoïde, à la tuberculose, à quantité de maladies. Qu'est-ce qui va me permettre de distinguer ces différentes maladies ? C'est bien sûr tous les autres symptômes, mais en définitive, chacune de ces maladies est engendrée par une lésion initiale. C'est ainsi qu'on l'appelle, la lésion initiale qui va créer tout le processus pathologique. Et cette lésion, elle va être individualisée grâce à l'autopsie. Et c'est ainsi que, à partir du début du XIXe siècle, on ne va plus parler des fièvres intestinales. On va dire, mais non, parmi les fièvres intestinales, ça voulait dire, vous avez de la fièvre et vous avez de la diarrhée. Mais non, il y a des typhus, il y a des typhoïdes, il y a du colibacille, il y a quantité de maladies différentes. Et alors, effectivement, comme on dit de manière un peu savante, c'est un nouveau paradigme de la médecine. C'est-à-dire que c'est une nouvelle manière de concevoir les maladies. La maladie n'est pas définie par des symptômes, elle est définie par l'association constante d'un certain type de symptômes avec un certain type de lésion anatomique que l'on constate à l'autopsie. Et c'est l'ensemble des deux qui définit et caractérise une maladie bien précise. Et à partir de ce moment-là, on peut en suivre l'évolution, on peut comprendre quelles sont les complications qu'elle est susceptible de présenter. Bien entendu, il reste un problème, c'est que en dehors des maladies qui étaient accessibles à la chirurgie, jusqu'à la fin du XIXe siècle, il n'y a pratiquement pas de ressources thérapeutiques pour lutter contre les maladies inflammatoires ou contre les maladies infectieuses qui constituent, et encore moins contre les maladies cancéreuses. On pouvait guérir un peu, on pouvait traiter un peu les douleurs, mais on ne pouvait pas en traiter la cause. Les cancers, on pouvait enlever ce qu'on pouvait par la chirurgie, et le reste des maladies, on était toujours aussi impuissant. Mais la grande nouveauté, la grande force de la médecine qui naît au début du XVIIIe siècle, c'est que désormais, on va bien comprendre ce qu'est une maladie. Et pour reprendre le mot de Michel Foucault, qui s'est beaucoup intéressé à la naissance de cette médecine moderne, il a une formule qui est très intéressante. Il dit « On est passé de la botanique des symptômes à la grammaire des signes ». C'est-à-dire que jusque-là, les médecins, un peu comme s'ils composaient un herbier, faisaient de la botanique des fièvres. Il y en avait des rouges, des bleus, des vertes. Et à partir du moment où on a changé le paradigme, on a dit « Non, 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 c'est le signe ». D'une maladie qui s'intègre dans une phrase pathologique, cohérente, où vous aurez un certain nombre de signes associés et où vous aurez une lésion qui permettra d'expliquer l'ensemble des signes cliniques qu'on a observés. Ça, c'est la grande révolution conceptuelle de la médecine et c'est totalement contemporain de la vie de Beethoven. Alors naturellement, cette médecine qui apparaît au début du XIXe siècle, c'est avant tout une médecine hospitalière. Et je dirais même une médecine hospitalo-universitaire. C'est précisément parce qu'on a pu établir une nouvelle organisation de la médecine, fondée sur des hôpitaux avec des médecins qui y sont à temps plein et qui sont adossés à des écoles de médecine, que de telles constatations entre les signes cliniques et la lésion sont possibles. Jusque-là, il y avait des hôpitaux. Il y avait des hôpitaux depuis la plus haute antiquité. Mais dans l'immense majorité des cas, les hôpitaux étaient des mouroirs. On a, juste avant la Révolution française, un rapport d'un grand médecin de l'époque qui s'appelle Tenon, qui d'ailleurs a donné son nom à un hôpital parisien, qui fait un rapport sur les hôpitaux de Paris. Et quand il parle du plus grand et du plus ancien de tous les hôpitaux de Paris, c'est-à-dire l'Hôtel Dieu, qui est juste au pied de Notre-Dame de Paris et qui remonte au Moyen-Âge. Tenon, en 1788, juste à la veille de la Révolution, dit « c'est un endroit où l'on n'entre que pour mourir ». C'est-à-dire que les hôpitaux, c'était d'abord pour les pauvres, c'était évidemment des fondations religieuses, on essayait d'en prendre soin avec beaucoup de charité, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance, mais on n'avait quasiment rien à leur proposer. Il faut dire que la promiscuité des hôpitaux facilitait la contamination des patients les uns par rapport aux autres, et puis il faut rajouter que dans les hôpitaux, on ne mettait pas que des malades. On mettait aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui des malades mentaux, qu'on mélangeait avec ceux qui ne l'étaient pas, et on mettait aussi des délinquants. Et on mettait, par exemple, ce qu'on appelait au XVIIIe siècle les filles publiques, donc des prostituées. Donc, il y avait une population extrêmement hétérogène, et ce n'était pas des lieux de soins. On avait de temps en temps un médecin qui passait, qui venait voir. On avait de temps en temps un chirurgien qui venait faire un pansement. Mais pour l'essentiel, c'était des religieuses qui donnaient à manger et à boire et qui essayaient de consoler des patients. Le modèle qui se met en place après la Révolution française, c'est complètement différent. C'est-à-dire que les médecins investissent pour la première fois massivement les hôpitaux, et ce sont aussi des médecins qui enseignent la médecine. Et c'est à partir de la confrontation entre l'enseignement de la médecine et la pratique par ces mêmes médecins dans le lieu hospitalier que la nouvelle médecine va naître. Ce qui veut dire que toutes les constatations de la méthode anatomoclinique qui sont fondées sur l'autopsie ne se font que dans ce cadre-là. Il y a naturellement, et il y aura toujours, fort heureusement, inévitablement, des tas de médecins indépendants, privés, qui sont chez eux, qui sont dans les campagnes, bien entendu. Ces médecins-là sont très éloignés de ce mouvement. Ils font ce qu'ils peuvent, et c'est simplement au fil des années que le savoir qui va se constituer dans les hôpitaux, nouvelle formule, va peu à peu se diffuser via les écoles de médecine à l'ensemble des médecins. Mais il faudra plusieurs décennies pour que ça se fasse.
De août 1802, Bonaparte devient premier consul à vie. Il entreprend une foule de réformes comme l'internat des hôpitaux, ce qui permet l'émergence d'une nouvelle médecine. Et puis, après cette révolution, il veut rétablir l'ordre et la paix avec les autres pays et avec l'Église.
Une des grandes plaies entre les Français de la Révolution française, c'est la plaie religieuse, on va dire.
L'écrivain et historien français, spécialiste de l'histoire du consulat et du Premier Empire, directeur de la Fondation Napoléon, Thierry Lenz.
Au début de la Révolution française, on a supprimé les ordres dans la société, et un des trois ordres était l'ordre du clergé, qui disposait de privilèges, qui disposait d'une fortune considérable. Et on a voulu réorganiser l'Église, non pas en accord avec le Saint-Siège, mais contre le Saint-Siège. Les étapes ont été l'adoption de ce qu'on a appelé la constitution civile du clergé, qui était donc une façon de rattacher le clergé à l'État. Et puis ensuite, il y a eu, il faut bien le dire, des persécutions antireligieuses qui ont duré pendant toute la période de la Révolution. Persécutions antireligieuses auxquelles ont répondu des soulèvements, le soulèvement vendéen par exemple. Rappelons que l'emblème des Vendéens, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, cette tentative de déchristianisation de la Révolution a été contrée bien par des révoltes en réaction. Lorsque Bonaparte arrive au pouvoir, il déclare qu'il est l'homme de la paix extérieure et l'homme de la paix intérieure. Or, pour faire la paix extérieure, il faut arriver à, non pas rétablir l'Église telle qu'elle était avant, mais parvenir à un accord avec le Saint-Siège pour que les avancées de la Révolution et l'organisation traditionnelle de l'Église de France deviennent compatibles. Donc on va négocier ce qu'on a appelé le concordat. Le concordat, il y en a eu grande quantité dans l'histoire, mais enfin, c'est un accord international entre le Saint-Siège et la République française pour s'entendre sur la place que va prendre l'Église catholique, en l'espèce, dans la société française. Alors, il y a des concessions de la part de l'Église. Par exemple, les évêques vont être nommés par le chef de l'État, et le pape leur donnera simplement ce qu'on appelle l'investiture canonique. Et puis, il va y avoir aussi des concessions de la part de la République, puisqu'il est décidé dans le concordat, un, la liberté des cultes, ce qui est quand même assez important, et puis deux, que les ecclésiastiques seront rémunérés par l'État. C'est donc ce concordat qui rétablit en quelque sorte la fille aînée de l'Église, comme on l'appelait déjà à ce moment-là, au sein de l'organisation de l'Église romaine. Alors, c'est un concordat qui va fonctionner, mais qui va mal fonctionner assez vite. Et on sait que la suite de l'histoire, c'est un conflit extrêmement dur entre la France, consulat puis empire, et la papauté, qui aboutit, un, à l'excommunication de Napoléon, ce qui n'est quand même pas rien, et deux, à l'arrestation du pape, qui va être transféré à Savone d'abord et à Fontainebleau ensuite.
Nous sommes quelques années plus tôt, en 1793, à Paris. Il fait froid, environ 3 degrés le matin de ce 21 janvier. Au son des tambours et des trompettes, l'ancien roi de France, Louis XVI, est conduit à l'échafaud.
L'Angleterre et la France sont en guerre depuis février 1793. Alors, les Anglais ont pris comme prétexte l'exécution de Louis XVI, mais enfin tout le monde, y compris à l'époque d'ailleurs, a bien compris que ça n'avait rien à voir. Rappelons que les Anglais ont aussi coupé la tête à leur roi 130 ans plus tôt, donc ce n'était pas un casus belli. Le casus belli, c'était le fait que les Français étaient en train de gagner la guerre sur le continent et que l'Angleterre ne pouvait pas le tolérer. Donc les deux pays sont en guerre et cette guerre, elle va durer dans sa première phase, à peu près 9 ans. Alors, les deux pays ne s'affrontent pas directement autrement que sur les mers. sur les mers, sont toujours les Anglais qui gagnent. Bataille d'Aboukir en 1799, bataille de Trafalgar en 1804, donc après. Et les Français et les Anglais vont commencer à discuter de la paix, on va dire, à partir de la mi-1801. Il faut dire aussi qu'en 1801, les Français ont gagné toutes les guerres sur le continent. Ils viennent de signer la paix avec l'Autriche, ils sont donc devenus véritablement la puissance prépondérante sur le continent. Donc les Anglais acceptent de discuter la paix. On va d'abord signer des préliminaires de paix en octobre 1801, et puis en mars 1802, on signe un véritable traité de paix entre la France et l'Angleterre à Amiens. C'est donc quasiment la guerre continentale et la guerre européenne est terminée. Il reste encore deux petits traités à signer que la France signera avec la Russie, ce qui n'est pas rien, et avec l'Empire ottoman après, mais c'est la paix générale. Et la paix générale, c'était une des promesses du gouvernement de Bonaparte au moment de la prise de pouvoir en 1799. Il a réussi la paix religieuse avec le Concordat, il a mis fin aux révoltes de l'Ouest, et voilà maintenant que la France est en paix avec l'Europe entière. Et donc on imagine que ce moment de mars 1802, c'est un grand moment d'allégresse dans tout le pays, et tous les témoignages, tous les rapports de police, tous les rapports préfectoraux concordent. Ça a été véritablement un moment électrique, comme on pourrait dire, où il y a eu une authentique joie jusqu'au plus profond de la société française. Et évidemment, Bonaparte en a profité au sens le plus noble du terme, puisque on lui a attribué tous ses succès, et quand même, la justice nous oblige à dire qu'il a été effectivement à l'origine de tous ses succès, y compris parfois d'ailleurs en se chamaillant avec son entourage ou avec les anciens révolutionnaires. Donc c'est un moment essentiel. Au fond, si Bonaparte était mort en mars 1802, après la signature de la paix d'Amiens, il resterait quand même un grand personnage de l'histoire de France. Parce que, d'abord, la plupart des réformes avaient déjà été conçues, avaient presque même déjà été toutes votées en 1802, donc en 2 ans de pouvoir, ce qui est quelque chose d'absolument extraordinaire.